يحصر على الغرام. ما بيا ولا هلكني سوى عشق الريام بيا، خدج والغزال عيني حبيب الجافية هوا. من هواهم يا لطيف راني النار الشعلة طوية، نبكي ما صرت من يعذرني وحبابي غافلين. نلقى الريام يا الفهم عبدو غير الانتقام، هولي وسبتي للحباب الجافين. دي مدان بات صار ما جانيش المنام، يا وعدي ما بقى الدنيا يحصر عن الغرام. دق عمري ما قدرت نصبر خرجت نشوف يا الفهمة. واقف في الباب بقيت ننظر حلو من الجافية فطيمة. بقيت في زين ومن شكر قالوا لي يا فلان كما، قالوا لي رواح يا طالب والسباب يا حزين. كان انت يا قلبي بفهم نبينا بالكلام.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Une émission qui vient une semaine sur deux. Ce soir, ça va être bien sûr comme prévu et comme ça doit être normalement, on parlera d'élections fédérales du 14 octobre prochain. Ça va être une émission très chargée, il n'y aura pas beaucoup de musique, mais la musique qui va être disponible, ça va être de la nouvelle musique qui vient d'arriver d'Algérie. Et le débat va être avec des représentants des partis politiques en course pour les élections du 14 octobre prochain. Nous allons commencer avec le Parti fédéral, après ça on aura des invités du Bloc québécois, d'autres invités du Parti conservateur et on va terminer la soirée avec des invités du MPD.
صنت يا عشيق وفهم وشغل الولعين، اللي هو مغروم كيف يفهم هاد الكلام. يا وعدي ما بقات دنيا يحصر على الغرام، امشي يا رسول لدار الحبيب بحق العود يا لنا نعود بنا. قل لهم وطن المغيب وحمل المعاد لا لا المعاد بنا.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, donc, nous allons parler d'élections fédérales qui vont avoir lieu le mardi prochain. Bien sûr, les élections ont commencé puisque on pouvait voter par anticipation depuis quelques jours. Et pour commencer, nous allons directement parler avec un des candidats, Monsieur Justin Trudeau, candidat pour le comté de Papineau pour le Parti fédéral. Monsieur Trudeau, bonsoir. Je pense qu'on a Monsieur Trudeau, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, ça va bien ?
C'est mieux, ça ?
Oui, c'est mieux. Donc, vous serez notre premier invité pour cette soirée électorale sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Merci, c'est un privilège d'être le premier. Je sais que c'est sûrement aléatoire, mais si je peux un peu établir le ton de la soirée, je vais, comme j'ai fait tout au long de la campagne, ne pas attaquer les individus, et je vais parler de politique en général et précise en ce qui a trait des plans des différents partis.
Donc, nous allons commencer notre débat avec vous ce soir. La première question, je laisserai donc Wahid. Bonsoir Wahid, qui va vous la poser.
Vous êtes monsieur. Bonsoir Monsieur Trudeau.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes vous portez un nom de famille d'une qui fait référence à une personnalité importante au Canada. Est-ce qu'il y a une différence entre Monsieur Justin Trudeau et Monsieur Pierre Elliott, feu Pierre Elliott Trudeau?
Merci Wahid pour vos mots gentils envers mon père, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de similarités, dans le sens que j'ai été élevé avec des valeurs très fortes d'ouverture sur le monde, de respect pour l'autre, de vouloir lutter pour les programmes sociaux et le respect de toutes les personnes dans la société et l'entraide. Donc c'est bien, mais mon père, il est allé en politique en tant qu'avocat, en tant que journaliste, avec une certaine maturité et des projets concrets en tête. Moi, je rentre en politique, je suis beaucoup plus jeune. J'ai mon passé est en enseignement. J'ai passé 5 ans en tant qu'enseignant. J'ai passé 5 ans en tant que impliqué au niveau communautaire, surtout pour la jeunesse et pour l'environnement. Donc, j'ai beaucoup à apprendre. Mon parcours politique, ça va être tout à fait basé dans mon comté pour pouvoir apprendre et bien représenter les gens de Papineau. C'est mon champ d'apprentissage et mon champ de vouloir amener ma voix pour aider les gens concrètement dans mon comté.
Mouloud qui va poser la deuxième question.
Bonsoir Justin.
Bonsoir.
Ma question est à deux volets. Ma première question, éventuellement, est d'actualité. J'aimerais bien savoir quel est ton avis ou l'avis du Parti libéral concernant, disons, quel est le plan que vous avez pour endiguer la crise financière que éventuellement traverserait le Canada, admettant des difficultés bancaires.
Bon, d'abord, il faut comprendre que notre système bancaire au Canada est très différent du système bancaire aux États-Unis. Nous avons des banques beaucoup plus stables et on ne risque pas d'avoir une faillite totale de nos banques ou même de certaines banques au Canada à cause de notre système réglementaire qui est quand même corsé, qui a été amené par le Parti libéral dans le passé et qui nous isole un petit peu à ce niveau-là. Par contre, on a 80% de nos exportations qui vont directement aux États-Unis. Et si eux sont en crise, nous autres, nos manufacturiers, nos produits ne vont pas se faire acheter. Et donc, il faut préparer le Canada pour de l'impact au niveau des emplois. Et il faut quand même surveiller les investissements et les fonds de pension. Donc, M. Dion a dit très clairement que dans les 30 premiers jours d'un mandat libéral, dès qu'on se fait élire, il va consulter avec les grands experts justement dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, pour entendre leurs recommandations. Et on va regarder des mesures telles de ne pas appliquer le règlement de retirer de façon obligatoire de l'argent de ces fonds de pension, par exemple, quand ils sont à perte, d'augmenter peut-être l'assurance sur les dépôts en bancaires et des éléments comme ça. Donc, il y a plusieurs plans concrets qu'on mettra en marche immédiatement.
Monsieur Trudeau?
Oui.
Oui, je pense qu'il y avait un petit problème technique. On arrive à la fin de l'entrevue avec vous, mais avant de nous quitter, là c'est un petit peu le Québécois d'origine algérienne qui vous pose la question et qui vous demande un engagement sur une question qui intéresse la communauté algérienne.
Je sais, c'est la reconnaissance des diplômes.
Non, ça c'est un problème général, mais c'est une question particulière. Vous savez que l'Algérie, c'est le premier partenaire du Québec et du Canada en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. On parle d'une balance économique de 4 à 5 milliards de dollars en faveur du Canada, et même qui est donc censé augmenter avec le temps. L'ambassade du Canada est le seul ambassade qui est resté occidental, bien sûr, du G8, qui est resté pendant que l'Algérie souffrait. Mais depuis qu'il y a une stabilité politique en Algérie, sécuritaire, plus ou moins sécuritaire, donc on peut parler d'une situation beaucoup plus améliorée. Reste que les dossiers de visa sont traités à Paris. Reste que les Algériens sont obligés, pour avoir une entrevue, de se déplacer soit à Rabat, soit à Tunis. Est-ce que, si vous êtes élu, vous engagez pour travailler sur ce dossier de façon à transférer toute l'activité consulaire à l'ambassade canadienne à Alger?
Mais, vous savez, c'est sous le gouvernement conservateur qu'on a éliminé beaucoup de missions étrangères, dont celles à Saint-Pétersbourg, à Milan et plusieurs à Osaka, plusieurs autres endroits. Et pour moi, c'est une grande erreur et ça montre le manque d'expérience à l'international du gouvernement conservateur. C'est une priorité pour moi d'avoir une présence forte à l'international pour le Canada. Je voudrais un peu ramener, et je sais que l'équipe libérale veut ramener la réputation du Canada et la présence du Canada un petit peu partout dans le monde. Et vous soulignez très bien la vieille amitié entre le Canada et l'Algérie. Et je sais que ce serait un dossier sur lequel je serais vigilant et j'appuierais avec un certain enthousiasme.
Monsieur Trudeau, candidat pour le Parti libéral pour les élections du 14 octobre prochain pour le comté de Papineau, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée et je voudrais souligner surtout que tout le monde aille voter. C'est ça qui est le plus important. Vous ferez vos choix personnels, mais c'est important que tout le monde participe.
Merci beaucoup bonne chance. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ce soir, c'est une soirée électorale. Après avoir parlé avec Monsieur Trudeau, candidat pour le Parti libéral, maintenant nous allons passer avec des candidats du Bloc québécois. Bien sûr, je mentionnerai que je suis accompagné ce soir avec Mouloud et Wahid. Ils vont donc animer la soirée avec moi. C'est à eux que revient le privilège de poser les questions aux candidats ce soir. Je rappelle que nous allons recevoir des représentants de tous les partis politiques ou tout au moins des grands partis politiques impliqués dans ces élections qui vont avoir lieu, qui ont déjà commencé, puisqu'on a pu, pour ceux qui s'étaient intéressés à on aurait pu voter par anticipation, et les élections vont avoir lieu le mardi prochain, 14 octobre, et comme je l'avais bien mentionné, donc après avoir reçu un représentant du Parti libéral, maintenant nous allons passer avec des candidats du Bloc québécois. Nos candidats, donc nous allons avoir le privilège de parler avec Madame Maria Morani, candidate pour le comté de Ansik. Madame Viviane Barbeau pour le comté de Papineau. Monsieur Farid Salem, candidat du Bloc québécois pour le comté de Saint-Michel-Saint-Léonard. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, avant de donner la parole à Mouloud et à Wahid, je voudrais donner la possibilité aux trois candidats du Bloc québécois de se présenter et de présenter aussi leur comté. Donc, nous allons commencer avec Madame Maria Morani.
Mais bonsoir aux auditeurs, auditrices. Je suis la députée d'Annecy. Je me représente pour le Bloc québécois dans la circonscription d'Annecy. Je suis criminologue, sociologue. On me connaît beaucoup pour mon combat contre les gangs de rue. Je suis auteur aussi de la face cachée des gangs de rue. Mon comté est un comté très diversifié. Plusieurs enjeux sont importants, dont celui de la sécurité, parce que nous sommes un petit peu entourés de différents comtés un peu chauds. Et donc la sécurité, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pendant les 2 ans et demi, mais auquel je compte encore travailler, parce que malheureusement, toutes les questions de sécurité n'ont jamais de fin. Alors je souhaite mettre sur pied une patrouille de rue qu'on appelle pour faire de la prévention auprès des jeunes, puis j'ai l'appui de la commission scolaire de Montréal et de la police de quartier,
entre autres. Je mentionnerai aussi que vous étiez, ou peut-être vous êtes encore directrice de la, du groupe parlementaire Amitié Canada-Algérie.
Tout à fait.
Monsieur Farid Salem.
Moi, je m'appelle Farid Salem. Je me présente dans la circonscription de Saint-Léonard-Saint-Michel. C'est un comté qui commence de la 19e avenue, qui va jusqu'à Langerier. Et au nord, il s'arrête au chemin de fer. Et au sud, sur Bélanger. Donc, ça regroupe un peu Jean Talon et un peu le ce qu'on appelle le Petit Maghreb. Voilà. Alors moi, comme on me connaît un peu dans la communauté, comme personne ressource, je suis cofondateur de Mouvement Montréal Français. On travaille sur la langue française. Je suis cofondateur et président de Solidarité Québec-Algérie. Et bon, j'étais aussi président d'un festival international afro-caribéen pendant 3 ans.
Madame Viviane Barbeau.
Alors Viviane Barbeau, bonsoir tout le monde. Je suis l'actuelle députée de Papineau depuis 2006. Nous avons défait le ministre Pierre Petitgros qui était ministre des Affaires étrangères. Et quand je suis arrivée, les gens disaient nous avons un ministre mais pas de député. Donc ils voulaient avoir quelqu'un de présent qui soit au fait de ce qui se passe dans la communauté, qui les accompagne. Vous savez, Papineau est l'un des comtés les plus pauvres du Canada et à cet égard, il y a des problèmes criants de pauvreté, de manque de logements sociaux, de manque de travail, d'intégration des immigrants qui demandent qu'on soit vraiment qu'on agisse conjointement avec les nombreux groupes communautaires qui travaillent à faire en sorte que ça se vive mieux. Dans le comté, je suis enseignante de carrière. J'ai terminé en carrière d'enseignement au cégep de Victoriaville. J'ai aussi été présidente de la Fédération des enseignants de cégep, présidente de la Fédération des femmes du Québec. Je suis reconnue pour toutes les questions qui concernent l'intégration des immigrants, en particulier l'intégration des hommes et des femmes à la société québécoise.
Merci. Avant de donner la parole à Wahid et à Mouloud, je tiens à mentionner quelque chose. Un événement qui a marqué la communauté maghrébine aujourd'hui, Farid donc, celle m'a rappelé le Petit Maghreb. Je tiens à féliciter l'équipe du Petit Maghreb, Madame Annie Samson, donc mairesse aussi de l'arrondissement, et aussi l'UDA qui a participé et tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la réussite d'un événement qu'on peut dire qu'il a marqué le quartier et qui a marqué aussi la présence de plusieurs de nos invités qui sont avec nous ce soir. Donc j'aurai la parole à Wahid.
Le bloc a été aussi commanditaire de la fête d'aujourd'hui qui était extraordinaire, la fête du Petit Maghreb.
Merci pour la précision. Donc Mouloud, Wahid, on va passer aux questions.
Bonsoir, Madame Barbeau, Madame Mourani et Monsieur Salem.
Bonsoir.
Et bonsoir aussi aux auditeurs. Moi, j'aimerais bien savoir quel serait l'apport, bien sûr, parmi nous, il y a des candidats sortants, il y a des députés sortants et candidats dans le prochain gouvernement. Quel serait l'apport du Bloc québécois en matière de politique fédérale dans les volets finances, culture et environnement brièvement?
Écoutez, en termes de culture, c'est tout à fait essentiel pour la société québécoise, vous le savez. Nous avons finalement été reconnus comme étant une nation. Cependant, on voit à travers les derniers événements, les coupures qui ont lieu en culture en particulier, que pour le gouvernement fédéral actuel, c'est un vain mot. Donc, il faut absolument qu'on renforce la culture québécoise. Le fait que vous parliez français, vous le savez, c'est un renforcement pour nous important. Je parle de la communauté maghrébine et à cet égard, il faut que les liens entre nous soient de plus en plus forts parce que votre présence ici témoigne justement de la vitalité de cette culture francophone-là qu'il nous faut préserver.
C'est très simple, la coupure dans le domaine de la culture, ça fait disparaître 314 000 emplois qui sont liés directement ou indirectement à ce secteur-là. C'est vraiment quelque chose d'horrible. C'est, si vous voulez, c'est l'équivalence d'un quart d'heure de cette guerre qui se passe en Irak, pardon, en Afghanistan.
Moi, je pourrais vous parler rapidement de la crise économique. Écoutez, il est clair que la crise économique actuelle qu'on voit sévir aux États-Unis, qui s'est propagée en Europe, nous touche. On l'entend tous les jours dans les médias. Ce qui est important de comprendre, c'est que les banques canadiennes et les caisses populaires du Québec sont fortes. Sont fortes parce qu'elles n'ont pas prêté d'une certaine manière, de manière un peu folle, tout simplement, comme l'ont fait les banques américaines. Et le crédit est encore fort au Québec et au Canada. Par contre, oui, nous allons vivre une récession, mais la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que nous allons vivre une récession, c'est comment nous allons traverser la récession. Et la manière de traverser la récession, ce qu'on dit au bloc, c'est qu'il faut arrêter de donner des cadeaux fiscaux aux pétrolières et réinvestir dans le manufacturier, le bois d'œuvre, dans l'économie, en fait, injecter l'argent pour avoir des emplois. Et je vais vous donner des exemples très concrets dans l'infrastructure. Et dans l'infrastructure réelle, c'est-à-dire des projets à court terme et réels, comme par exemple dans mon comté, ça peut être carrément la construction de la maison des arts et des lettres, ça peut être les ponts, les viaducs, les routes, les autoroutes. Donc, une façon d'injecter de l'argent pour faire relever l'économie, ça c'est très important.
Je vous remercie.
Bonsoir Madame Barbeau. Tout le monde parle de culture, mais il se trouve que pour aller profiter de cette culture, des activités culturelles, aller au spectacle, au cinéma, participer à des galeries d'art, il faut de l'argent. Et il se trouve qu'une frange de la population ici, au Canada, au Québec, n'a pas les moyens d'aller travailler ou du moins subit les affres du chômage. Il se trouve, que voyez-vous comme solution pour y remédier?
Alors, je vous disais que dans mon comté, c'est un problème criant, le manque de travail, en particulier pour les populations immigrantes pour lesquelles on n'a pas fait assez, en tout cas, d'efforts d'intégration. Donc, le travail, c'est vraiment un lieu d'ancrage dans la société qui est extrêmement important. Et à cet égard, on invoque souvent des problèmes de reconnaissance d'acquis, etc., qui est du domaine provincial, soit dit en passant. Cependant, il est évident que quand on fait venir des gens ici pour faire part de la société, on ne peut pas se permettre de perdre ces atouts-là. Donc, c'est une perte de richesse pour tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait des efforts d'intégration beaucoup plus grands parce que les immigrants qui arrivent peuvent contribuer à enrichir, pas juste parce qu'ils ont du travail, mais parce qu'ils amènent des choses nouvelles, parce qu'il y a un dynamisme qui vient avec. Et ce que je dis des immigrants vaut aussi pour les couches les plus pauvres de la société qui sont dans mon comté et pour lesquels on a besoin de faire un effort constant pour être capable de faire du développement local. On a vu que les entreprises qui s'occupent du développement local ont été sous-financées, les groupes de femmes, etc. Dans un milieu pauvre, il y a énormément de travail qui se fait par les groupes pour capaciter les gens, les amener à prendre en main leur propre destinée et aller plus loin. Et ça, si on veut qu'ils puissent profiter de la culture et tout ce qu'il y a dans la société, il faut leur donner les moyens. Et ça, c'est le rôle d'un gouvernement cohérent.
Merci, madame. Monsieur Farid Salem.
Moi, je pense que oui, c'est un problème très crucial au niveau de ce phénomène qui est le chômage. Mais quand on entend les libéraux parler comme Trudeau, que les unilingues, c'est des gens paresseux, et on fait partie des unilingues. Il n'a pas compris que nous, on connaît plus que trois langues. On connaît le français, l'arabe et d'autres langues. Donc, alors moi, je pense que à ce niveau-là, il faudrait que la langue française soit l'unique langue de communication au Québec pour qu'on puisse accéder à des postes de travail qui ne demandent pas seul bilinguisme.
Je vous remercie, monsieur Farid.
Oui, merci monsieur. Écoutez,
une corrélation entre la culture, aller profiter des activités culturelles et le chômage.
Écoutez, moi ce que je voudrais plutôt vous parler, c'est de la lutte à la pauvreté. Puis dans cela, on parle du logement abordable. À Montréal, on manque autour de 23 000 logements abordables et ça, malheureusement, c'est dû au fait que le fédéral a arrêté de financer, d'envoyer les transferts dans les provinces pour financer le logement abordable. Donc, ce qu'on dit au bloc, c'est que non seulement il faut investir 2 milliards par année à même les surplus de la Société canadienne d'hypothèque de logement qui sont estimés à 11 milliards d'ici 2010, les investir pour rattraper le temps perdu au niveau du logement abordable, mais aussi que le gouvernement investit 1% de son budget dans des nouveaux logements abordables. Donc ça, c'est fondamental parce que les familles sont directement touchées par le logement abordable.
une petite question ou une dernière question, je la dirigerai à Monsieur Farid Salem, en tant que Québécois, canadien et d'origine algérienne, connaissant le taux de chômage qui touche pas uniquement les Algériens mais les Maghrébins qui sont francisés, hautement diplômés, quel serait une fois élu, quel serait le plan d'attaque de le futur député Farid Salem?
C'est la formule très simple. Viviane déjà a annoncé ce que le Bloc peut faire, du malgré que c'est de la juridiction du Québec. Mais une chose est certaine, qu'on va faire tout ce qui est en notre moyen pour qu'une personne qui soit sélectionnée en tant qu'ingénieur vienne ici travailler en tant qu'ingénieur, même si on lui laisse une année ou deux d'adaptation. Un médecin, si on le sélectionne en tant que médecin, eh ben c'est la même chose, qu'il vienne ici, qu'on lui donne un temps d'adaptation de une ou deux années, etc. C'est-à-dire revenir vers la simplicité. Si on sélectionne des gens pour des choses bien précises, il faudrait que ce gouvernement fasse le nécessaire pour que les gens travaillent dans leur domaine, et ça a pour conséquence que la société gagne gagne dans ce domaine-là, l'individu gagne et tout le monde en gagne à ce niveau-là. Et là, j'en ferai au moins une de mes priorités dans ce domaine-là.
Je pense que merci Mouloud Moissi Wahid. Je poserai une question, deux questions, et on fera un tour de table avec les candidats du Bloc québécois, que je rappelle, donc Madame Viviane Barbeau pour le comté de Papineau, Monsieur Farid Salem pour le comté Saint-Léonard-Saint-Michel et Madame Maria Morani pour le comté d'Ansic. Première question que je poserai pourquoi je voterai Bloc, et il y a un sous-entendu que le Bloc ne peut pas avoir le pouvoir à Ottawa parce qu'il se présente seulement dans la province du Québec, et les gens se posent la question pourquoi on voterait pour un parti qui n'a pas aucune chance d'être au pouvoir. Et donc, pourquoi je voterai Bloc? La deuxième question, dans la même réponse, pourquoi je voterai pour Mme Maria Morani? Pourquoi je voterai pour Farid Salem? Et pourquoi je voterai pour Mme Viviane Barbeau? Et bien sûr, la question de la soirée, c'est le point que j'avais mentionné à M. Trudeau sur le rapatriement des activités consulaires. Ce n'est pas normal que le premier partenaire du Canada et du Québec en Afrique et au Moyen-Orient n'ait pas une ambassade complète avec tous les services. Et si on parle qu'il y a des problèmes de moyens, je pense que juste au niveau de la balance économique entre les deux pays, il y a assez d'argent pour pouvoir payer quelques agents consulaires qui traitent déjà les dossiers à Paris et qui posent beaucoup de problèmes parce que les gens sont obligés des fois de se déplacer soit en Tunisie ou au Maroc pour faire des entrevues. Donc c'est à vous de voir le choix d'intervention. Il y a à peu près trois questions. La question pourquoi je voterai Bloc, pourquoi je voterai pour vous-même, et la question des activités consulaires en Algérie par rapport à l'ambassade du Canada.
Alors je dirais d'abord pour le Bloc, c'est pas une nouvelle pour personne que le Bloc ne prendra pas le pouvoir. C'est nous qui avons décidé que nous ne voulons pas prendre le pouvoir. C'est nous qui avons décidé en tant que Québécoises et Québécois que nous irions à Ottawa pour surveiller les intérêts du Québec parce que les partis antérieurs ont toujours été incapables de le faire à notre satisfaction. Et à cet égard, on doit voir que depuis le temps que le peuple nous élit, c'est un déni de démocratie que de remettre en question le fait que nous soyons à Ottawa. Nous sommes sans fausse modestie les meilleurs parlementaires qui soient à Ottawa. Nous respectons toutes les règles et nous avons à cœur d'amener des questions qui nous concernent. Le déséquilibre fiscal n'existerait pas, on n'en parlerait pas des thèses du Bloc. Les lois pour réprimer les gangs non plus, et je peux vous inciter comme ça à des succès du Bloc. Et nous travaillons à faire en sorte que la population québécoise soit mieux représentée à Ottawa.
C'est sûr, pour compléter ce que Viviane a dit, et en parlant de diplomatie, si ce parti parti conservateur qui était au pouvoir, ou bien le prochain, si le mot nation québécoise est reconnu au niveau théorique, nous on va dans ce cadre essayer de le rendre dans la pratique, dans les affaires internationales, dans les affaires étrangères, pour en faire ne serait-ce que des centres de centres de sauvegarde des intérêts des Québécois, des Québécoises dans ces pays respectifs. Et c'est vrai, quand vous dites qu'on a des relations très très étroit, je dirais pas avec juste le Canada, mais avec le Québec, eh ben, nous en ferons en sorte que le mot nation ne reste pas juste au niveau théorie, mais passe au niveau pratique en consolidant un peu certains centres ou bureaux de représentation québécoise. Et moi, je rejoindrai bien sûr Viviane en concernant le Bloc. Le Bloc n'est pas parti pour prendre le pouvoir. Le Bloc est là-bas pour sauvegarder les intérêts des Québécois et des Québécoises. Et c'est pour ça qu'il faudrait aller voter pour que Harper ne soit pas majoritairement dans ce gouvernement.
Moine.
Je vous dirais que mes collègues ont déjà pas mal apporté des points, mais je dirais l'un des points fondamentaux qu'on pourrait dire aussi, c'est le fait que nous ne représentons que le Québec. On représente tous les intérêts du Québec. On n'est pas tiraillé entre des décisions qui vont entre l'Ontario, l'Alberta. Nous, on ne représente que le Québec. Quand c'est bon pour le Québec, on vote. Si c'est pas bon pour le Québec, on vote pas. Donc, on n'a pas plusieurs amours, nous. On n'a qu'un seul amour, puis c'est le Québec, puis on le défend, puis on se tient debout. On reste pas à genoux. On est des Québécois à part entière et on défend le Québec. Mais il y a des Québécois qui sont dans le gouvernement et puis qui sont à genoux. Mais nous, on est debout.
Et en ce qui concerne la représentation canadienne à l'étranger, en particulier dans un pays, on doit dire que c'était les libéraux qui ont commencé ça. Et on a beau dire que les conservateurs ont continué, mais les libéraux l'ont commencé allègrement. Et on peut voir que dans les pays francophones, il y a eu une saignée encore plus grande. C'est le cas de pays d'Afrique en particulier. Et ça, en regard de l'augmentation des ressortissants de ces pays-là, en particulier du Maghreb, qui sont ici, c'est la moindre des choses qu'il y ait des représentations plus équitable de certaines parties du monde. Et dans mon comté en particulier, très souvent, je dois traiter des cas de gens qui veulent simplement que leurs parents viennent leur rendre visite ici et on refuse sous des prétextes absolument fallacieux. Et ça, il faut que cela cesse parce que quand nous émigrons, nous n'abandonnons pas nos familles, nous n'abandonnons pas notre pays d'origine. Nous avons légitimement le droit d'avoir des gens qui viennent nous rencontrer, nous voir dans le plein respect de notre nouvelle société. Et c'est le devoir du Canada de faire en sorte que ces rencontres familiales puissent avoir lieu.
Merci. Mais je vous donnerai quand même 15 secondes chacun pour pourquoi je voterai pour vous personnellement. Ah oui. Je pense une question pertinente. Donc on commence avec Madame Maria Morani.
Mais écoutez, pourquoi voter pour moi? Je vous dirais tout simplement. Pourquoi voter pour Maria Mourani? Je vais vous répondre un petit peu par rapport à ce que tous mes commettants me disent quand je les rencontre dans la rue. Parce que vous êtes présente, parce que vous êtes quelqu'un de parole, parce que vous nous défendez au-delà de tout, parce que vous êtes la seule personne en qui on a confiance, et aussi parce que vous travaillez avec tout le monde. Je travaille avec tout le monde pour arriver à régler des dossiers. Et juste un dernier mot concernant l'affaire de l'ambassade algérienne. On a le même problème avec l'ambassade libanaise qui elle aussi, on ne traite pas tous les dossiers d'immigration, les gens sont obligés d'aller à Damas. Je vais porter aussi ce dossier là ça va me faire deux ambassades pour laquelle je dois me battre.
Monsieur Salem.
Voter pour Salem Farid, c'est voter pour notre visibilité. On le sait que nous, notre communauté n'est pas visible, les gens ne nous connaissent pas. Alors pour qu'ils nous connaissent, il faut qu'ils nous voient par Farid Salem, par le Bloc qui a été toujours auprès de nos revendications, nos besoins. Je pense que ce sera déjà un pas pour notre belle visibilité.
Alors, voter Viviane Barbeau, c'est voter pour une femme convaincue de la nécessité au Québec de prendre en compte les intérêts de toute la population, quelle que soit notre origine. Je pense être modèle d'intégration à cet égard et autant pour les Québécois francophones que pour les autres, je veux être cette voix-là modérée avec qui les gens sont capables d'avoir des vraies réponses, de travailler avec la population locale, de faire en sorte que toute la communauté de Villeray, Parc-Saint-Cyr, Saint-Michel puisse avoir un avenir meilleur. Ça se vit bien dans notre circonscription. Nous voulons que ça continue et le choix des gens, le choix le plus judicieux dans la circonstance, c'est celui de Viviane Barbeau.
Madame Viviane Barbeau, candidate et députée sortante pour le Bloc québécois dans le comté de Papineau, merci.
Merci.
Monsieur Félix Sem, candidat pour le Bloc québécois pour le comté de Saint-Léonard-Saint-Michel, merci.
Merci.
et Madame Maria Morani, députée sortante et aussi candidate pour le Bloc québécois pour le comté de Hansik. Merci beaucoup.
Allez voter le 14 octobre et votez bien sûr Bloc québécois. On vous supplie.
Voilà.
Et donc je vous souhaite bonne chance dans ces élections. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on parle d'élections. On reçoit les candidats des différents partis politiques. On vient de terminer notre revue avec trois candidats et candidates du Bloc québécois. On va prendre une petite pause publicitaire et on revient avec d'autres invités.
Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. Réservez maintenant et ne payez que 2 semaines avant votre départ. Aucun frais caché, 0% d'intérêt. Dépôt minimum requis, certaines restrictions s'appliquent. Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. 514-847-1287, 847-1287.
Massimo Pacetti, candidat libéral de Saint-Léonard et Saint-Michel et le Parti libéral du Canada vous ont présenté une vision pour un Canada plus prospère, plus juste et plus vert. Un Canada qui protège ses citoyens en ce temps d'incertitude financière, avec une économie stable, des programmes sociaux plus solides et un environnement plus propre. Pour réaliser cette vision, votre appui est essentiel. Ensemble, tout est possible. Le 14 octobre, votez libéral, votez Massimo Pacetti.
Autorisé et payé par l'agent officiel de Massimo Pacetti.
Le 14 octobre, vous êtes invité à voter à l'élection fédérale. Je suis Sylvie Bouliane, candidate du Parti conservateur dans Rosemont-Petite-Patrie. J'aimerais vous expliquer pourquoi il est important de voter pour le Parti conservateur. Nous avons réduit le fardeau fiscal des petites entreprises. Nous relancerons le secteur manufacturier et la création d'emplois. Nous allouerons 3 milliards de dollars sur 6 ans à un nouveau programme de formation à l'emploi. Nous travaillerons avec le gouvernement du Québec pour construire d'autres routes, d'autres hôpitaux et d'autres institutions culturelles. Nous guiderons le Canada à travers la tourmente financière mondiale. Nous sommes le parti des familles, des enfants, des travailleurs, des aînés et des nouveaux Canadiens. Nous sommes votre parti. Le 14 octobre, rappelez-vous que Sylvie Bouliane, dans Rosemont-Petite-Patrie, travaille pour vous.
Ce message a été autorisé par l'agent officiel.
أيوة الرصون دي شو تقدم بليل واخو يا واه خطر قاع جماعة المستوية وحبابنا قاع غاشي القبائل باغي الاخبار قرا الجورنال صاحبي وصيفري قرايه مليحه بصح عيب تهضر في فلان مقابله الرجال فضيحه اللي مشغول بالناس عيان وما كانش سهل في القباحه واللي شاد فم وسلطان والهضره في الناس جياحه وهما فور فور وراك تعرف الديكور طلع لها روح روح صاحبي الوكوبي إلى ما جاتهم من عدنا جيهم من جهة أخرى أمين قول أمين هاي بتلك الدور بتلك يشموف وخليهم يهدروا ما على بالي بوالو بغيت الله بغيرين وهي ماما بغيت الله بغيرين ربي يحفظنا يا خاطرة غاوي باصونا الهدارة والحسدين آي ودي الهدارة والحسدين أيوة نديروش عليهم احنا بعقلنا ليكاليكا ليستنجا ونستيطوان وعرب الشيون كلها دارها هاد الوقت الشين آه ماما دارها هاد الوقت الشين ألا عم بيبغولك شتربح آي ويضرهم الصح ويسكوهما منقوصين يا ماما ويسكوهما منقوصين يا شموف خليهم يهضروا ما على بالي بوالو بغي طلبه وغيرين ويا ماما بغي طلبه وغيرين ربي يحفظنا يا خاطينا أبغاوي الباصونا الهدارة والحسابين آي ولدي الهدارة والحسابين ايوه مالهم هادو مالهم ما يخافوش ربي ولا عنبة عنبة صاحبي سنتينا وناس زينين حبيبنا قاعد يسير وهما رايهم رأشي وخدمتهم تاع الشياطين وهما ماما خدمتهم تاع الشياطين مازال ربي غادي يخلص وفي اللي ناوي النقص عيلة مازلنا حيين وهما يا ربي عيلة مازلنا حيين يا جموف وخليهم يهضروا ما أنا بالي بوالو وغي طلبة وغيرين يا خاطينا أبغاوي باصونا الهدارة والحسابين ويلا ماما الهدارة والحسابين أيوه هادي تنس العاصمة غاش العفرون ومزايا البليدة وتبازا بيرسلوا على الشمشات
à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on parle d'élection après avoir reçu Monsieur Trudeau pour le Parti libéral, Madame Viviane Barbeau, Madame Maria Morani et Monsieur Felsen pour le Bloc québécois. Nous recevons maintenant. Monsieur Agob Iverkian pour le Parti conservateur, candidat au niveau du comté Laval des Îles. Et Madame Sylvie Boulian, candidate pour le Parti conservateur au niveau du comté Rosemont-la Petite Patrie. Rebonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Comme vous l'avez sûrement constaté, depuis 10h30 ce soir on parle des élections. Les élections qui arrivent à grands pas puisqu'on est dans la dernière ligne droite vers la ligne d'arrivée. Et on saura quel gouvernement va gérer le Canada pour au moins 4 ans. Ça peut être moins dépendamment, est-ce que c'est un gouvernement minoritaire ou majoritaire. Le 15 octobre prochain et dans cette partie, donc dans cette émission, je suis accompagné par Mouloud et Wahid. Et pour commencer avec nos invités du Parti conservateur, comme je l'ai mentionné, M. Agob Iverkian, qui est donc candidat pour le Parti conservateur au niveau du comté Laval des Îles, et Mme Sylvie Boulian, candidate aussi pour le Parti conservateur au niveau du comté Rosemont la Petite Patrie. Pour commencer, nous commençons avec un tour de table avec nos deux invités, et on vous dit bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb.
Bonsoir, Massa Al-Khair.
Massa Al-Khair.
Salam alaikum, Sylvie Boulian, Rosemont, Petite Patrie.
Bonsoir aux auditeurs Radio Centre-Ville, bonsoir à la communauté maghrébine. J'étais ce soir parmi vous au coin Jean Talon, Saint-Michel. Alors, on est encore dans l'esprit de la fête et bon, on discute politique, là, mais on célèbre aussi la fête avec vous, malgré qu'on soit en studio.
Et on peut mentionner que les studios sont chauds. Ça nous rappelle un petit peu la température qu'on peut retrouver au Maghreb. Donc, je ferai un un premier tour de table en vous demandant de vous présenter et aussi de présenter votre comté donc en tant que comté pour les élections fédérales du 14 octobre prochain.
D'accord. Pour ma part, Sylvie Bouliane, candidate Rosemont Petite Patrie. C'est ma première expérience en politique. J'ai 46 ans. J'ai travaillé pour la première partie de ma carrière pendant 20 ans en Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre, à réaliser des projets de coopération internationale. Et je désire aujourd'hui faire de la politique pour poursuivre mon œuvre, enfin mes activités, notamment avec les populations des continents africains, pour représenter leurs intérêts, mais du côté du gouvernement, et non pas dans l'opposition.
Bonsoir, c'est Agop Everetlian, candidat conservateur dans Laval-les-Îles. Quant à moi, j'ai décidé de m'impliquer publiquement parce que notre région de Laval-les-Îles, un si beau comté, est vide de représentation. Alors, nous voulons avoir un représentant qui va non seulement faire un travail sur le terrain, mais aussi transporter la voix de ceux qui n'ont pas de voix dans notre comté.
Je poserai une question un petit peu technique. Est-ce que c'est possible de délimiter votre comté pour que les auditeurs concernés par le comté...
Avec plaisir. Le comté de Laval-les-Îles, c'est un comté qui a 59 kilomètres carrés, composé des 112 000 habitants. C'est délimité par la région de Chomedy, Sainte-Dorothée, les îles de Sainte-Dorothée, Jolibourg, Laval-sur-le-Lac, Laval-Ouest et Fabreville. Pratiquement, c'est tout l'ouest du boulevard Curé-Labelle. Et ça fait toute l'ouest de l'île de Laval.
Madame Sylvie, donc Bouliane aussi par rapport au comté Rosemont la Petite Patrie.
D'accord. Nous sommes le troisième arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal, un territoire de 14 kilomètres carrés. Et puis pour notre part, le territoire s'étend de Jean Talon jusqu'à Papineau. De Papineau, on va de Bélanger à Pinneuf et puis de Pinneuf à Sherbrooke, on longe la voie ferrée jusqu'à Jean Talon.
Mouloud, donc je donnerai la parole à Mouloud et Wahid pour poser les questions aux deux candidats du Parti conservateur pour les élections du 14 octobre prochain.
Merci Lamine. Bonsoir Madame Bouliane. Bonsoir Monsieur Agob.
Bonsoir.
Ma question est d'actualité. C'est une question que tous les auditeurs, tous les épargnants, qu'ils soient en début de carrière ou qu'ils soient des aînés qui ont accumulé des épargnes. Et vous le devinez, notre question toucherait la crise financière que traverse le monde, qui a commencé par les États-Unis et qui est en train de se répandre à travers le monde. Ma question est... quel est le plan du Parti conservateur pour endiguer ou du moins pour minimiser les incidences sur la santé financière du Canada?
Alors, vous êtes sûrement au courant que cette semaine, le ministre des Finances, M. Jim Flaherty, a fait une annonce assez significative, substantielle, je crois d'environ de 25 milliards. Pour justement stabiliser et rassurer les Canadiens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Canada, nous n'avons pas nécessairement le même système bancaire et hypothécaire que les États-Unis. Le problème, c'est que d'une part, les Américains ont dépensé énormément d'argent dans la guerre à l'étranger. Deuxièmement, le problème aux États-Unis, c'est que les Américains se servent de leur maison comme des guichets automatiques, comme des cartes de crédit. Donc, ils financent leur maison à ne plus en finir. Ce n'est pas du tout le cas au Canada. Je tiens à rassurer nos concitoyens qui nous écoutent ce soir que notre système bancaire est sur des bases très solides. Notre façon de prêter des hypothèques est complètement différente de celle des Américains. Maintenant, nous ne sommes pas surpris de ce ralentissement parce que nous étions déjà au courant. Et l'année dernière, déjà, on a présenté un budget très responsable qui a été d'ailleurs applaudi par plusieurs personnes au pays. Et déjà dans notre plan du programme conservateur, nous avons annoncé annoncé des investissements de 8,4 milliards. Dans ça, il y a des grandes parties qui vont aller revigorer, régénérer l'industrie. Et je crois que ce sont des façons pour démontrer justement le sérieux et la responsabilité de notre gouvernement.
J'aimerais ajouter également que Monsieur Harper a une politique quand même pour gérer le gouvernement qui repose sur l'équilibre budgétaire. Donc, pour traverser une crise, je crois que c'est important de pouvoir jouir de finances qui sont saines. Donc, sa politique est basée sur quatre principes. L'équilibre budgétaire, des mesures fiscales qui vont favoriser l'exportation, c'est-à-dire qu'il y a des franchises pour les entreprises manufacturières qui doivent acheter des équipements. On va leur donner des congés de taxes pour pouvoir moderniser leurs équipements. On prévoit également appuyer la relance de l'emploi dans les secteurs manufacturiers qui sont le plus touchés dans nos régions. Et puis, on prévoit également maintenir un niveau d'inflation qui soit relativement bas. Et si vous me le permettez également, outre la politique macroéconomique, il y a également des mesures qui visent toutes les catégories de la population, à commencer par nos aînés. On prévoit des suppléments de revenus garantis, des congés d'impôts, les allocations pour les familles, réduction de la fiscalité pour les entreprises. On prévoit également encourager les jeunes étudiants qui seront diplômés, qui auront des formations techniques, des métiers, recevront 2 000 $ à la diplomation pour s'acheter des équipements. Alors, il y a des mesures qui sont réfléchies, qui sont bien pensées, qui sont bien ciblées et qui touchent chaque catégorie de la population. Alors, je crois que ce sont des mesures qui sont concrètes et comme M. Harper le dit bien, on n'a pas l'intention d'ajouter de nouvelles taxes pour mettre des sous dans les poches du gouvernement, mais on tient à mettre des sous, à retourner des sous dans les poches des contribuables canadiens.
Tout le monde parle de diversité culturelle. Il y a certains qui parlent de multiculturalisme, l'autre d'interculturalisme. Moi, la question que je vous pose, c'est que à quand y aura-t-il quand un interculturalisme dans le domaine du travail? Je parle de la proportion des immigrants dans la fonction publique canadienne, dans les grandes entreprises canadiennes, Post Canada, etc. Le gouvernement conservateur est présent ici depuis 2 ans et demi et on voit que la proportion des immigrants dans le domaine du travail est très basse.
Écoutez, moi, j'appuie vos observations et je crois qu'il y aura plus de mesures concrètes quand ils seront prises. Il faut, je crois, faire entendre votre voix. Moi, si j'ai un regret dans la présente campagne électorale, on a vu des artistes qui ont manifesté, des syndiqués, mais on n'a pas entendu nos communautés culturelles. Alors moi, je veux bien m'unir à votre voix, mais je crois que vous devez prendre part au débat, prendre votre place dans la rue, manifester. Et il y a des mesures à prendre. Et j'ai même entendu des artistes professionnels qui disent « Ah oui, les artistes québécois manifestent pour la culture, mais nous, on a une culture et on aimerait la faire entendre sur les voies, la voix des ondes et on aimerait être vu à la télévision. » Alors, vos requêtes sont tout à fait légitimes et nous les appuyons.
Quant à moi, vous savez, il faut agir avec responsabilité. C'est bien beau demander à des nouveaux immigrants d'arriver au Canada, mais si on ne s'occupe pas à intégrer ces gens-là sur le plan professionnel, donc il y a un gros problème. Je connais très bien la situation de la communauté maghrébène. Vous avez une communauté hautement scolarisée et éduquée, et je crois que vous avez un taux de chômage incroyable, tellement élevé, qu'il faut agir rapidement. Alors, ce que je vous dis, c'est que le gouvernement conservateur a déjà agi avec beaucoup de responsabilité en cette matière. Nous avons investi 1,4 milliard de dollars dans nos programmes d'établissement. Nous avons mis en œuvre un bureau des compétences générales. Et cette démarche est justement pour établir un plan au niveau national en collaboration avec les provinces pour que nos gens qui arrivent ici hautement scolarisés, des ingénieurs, des médecins et j'en passe, qui ne soient pas obligés justement de faire des métiers qu'ils ne sont pas obligés de faire. Sans vouloir ici diminuer, je parle un médecin qui arrive ici, il n'est pas capable d'avoir ses équivalences et il est obligé de faire des métiers malheureusement.
Mais monsieur Evelekeleon, sur le terrain concrètement, qu'est-ce qu'il y a de choses d'apparentes?
Ben, au Canada, on a des lois au niveau de la main-d'œuvre qui facilitent justement l'intégration de nos communautés culturelles. Ici, il faut dire une chose. On est immigrant pendant 2-3 ans. Une fois qu'on devient citoyen canadien, on doit être traité et nous sommes traités à part entière. Et il y a beaucoup de politiques d'intégration au niveau de la loi fédérale, au niveau de la fonction publique. Mais il faut pas arrêter là, il faut aller plus loin. Et ça doit commencer par une politique d'immigration ouverte et qui inclus. Vous n'êtes pas sans savoir que sous les libéraux, pendant des années, on a eu des problèmes, que ce soit au niveau de l'intégration au marché du travail, que ce soit au niveau de la réunification familiale.
Et si vous me permettez, il y a aussi une question de mentalité chez les employeurs. Hier, j'ai rencontré un jeune étudiant sénégalais. Son père est sénégalais. Il est né au Québec, un étudiant en sciences politiques, et il se disait brimé par son nom de famille. Alors, je crois que il y a une sensibilisation à faire, et ce n'est pas seulement le fait des gouvernements, mais chacun d'entre nous, on sait que le débat sur le Québécois au sein du gouvernement canadien prend beaucoup de place, mais il faut être très, très conscient de ces impacts sur les marchés de l'emploi et les marchés de la culture.
Merci, Mme Bouliane. Aussi, moi, si vous permettez, je traite des sujets d'actualité un petit peu qui nous tiennent à cœur, parce que moi aussi, je travaille beaucoup dans le milieu culturel et artistique. J'aimerais bien savoir, en clair, peut-être qu'on est mal informé ou qu'on n'a pas assez eu d'informations sur la politique culturelle et artistique du futur gouvernement conservateur ou des futurs députés conservateurs des comtés précités.
Est-ce que vous faites référence à ce qu'on entend depuis 2 semaines sur la culture? Est-ce que vous me permettez de répondre? Premièrement, je saisis cette occasion pour mettre fin à la démagogie une fois pour toutes. Vous savez que nous avons augmenté l'investissement en matière de culture, de promotion de la culture à travers le pays, quelque chose de 2,4 milliards de dollars. Et ça, c'est une augmentation de 8% par rapport à le dernier exercice. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Les quelques programmes, environ 10-11 programmes que nous avons coupés, ce sont des programmes destinés à l'étranger, pour la promotion de la culture à l'étranger. Et si nous avons coupé ça, c'est pas parce que nous sommes contre la culture, pas parce que nous sommes contre la promotion de la culture. C'était des programmes obsolètes, désuets, et nous allons les remplacer par d'autres programmes beaucoup plus productifs, beaucoup plus, facilitateurs.
Et puis, en tout cas, on entend aussi les échos, justement. Moi, j'ai fait une campagne électorale auprès des communautés culturelles, les communautés religieuses et les communautés culturelles nous disent, écoutez, s'il y a des coupures, et si ça veut dire que ces coupures représentent de nouveaux programmes qui donnent accès à des artistes professionnels autres que Québécois d'origine, on nous dit, on entend toujours les mêmes artistes ici à la radio. On est pratiquement 50% de communautés culturelles sur l'île de Montréal. On a de la difficulté à se faire entendre, à se faire voir à la télé. C'est un débat qui mérite d'être soulevé. Et ce n'est pas tout de dire que l'on coupe et qu'on est contre la culture, mais je crois qu'il faut élargir nos horizons culturels à la lumière de la diversité culturelle que nous avons sur le territoire canadien, sur l'île de Montréal également.
Merci Madame Bouliane. Une dernière question, je pense que mon ami Lamine aurait aimé la poser. C'est la question logique. En 30 secondes, pourquoi je voterai pour Agop, étant habitant du comté de Monsieur Agop? Pourquoi je voterai pour Madame Bouliane, étant habitant pour le comté de Madame Bouliane?
Et j'ajouterai, Mouloud, à cette question, pourquoi je voterai conservateur. J'avais mentionné au niveau du bloc la problématique du fait que c'est un parti qui ne peut pas être au pouvoir, mais pour le conservateur, je poserai la question d'une peut-être peur justifiée ou injustifiée pour les communautés culturelles, la communauté arabe en particulier. Pourquoi je voterai conservateur aussi, bien sûr, comme vous l'avez mentionné, pourquoi je voterai pour vous, M. Agob, et aussi pour Mme Bouliane?
Premièrement, votez pour moi parce que moi, j'appartiens à une nouvelle génération de politiciens et je veux faire de la politique au-dessus de toute partisanerie. Je suis là pour servir tous les concitoyens de mon comté et tous les citoyens canadiens. Deuxièmement, cette mythe qui existe autour du Parti conservateur, il faut l'arrêter immédiatement parce que c'est pas vrai que les conservateurs sont des extrémistes. Le Parti conservateur, c'est un parti fondateur du Canada. C'est Georges-Étienne Cartier qui a, comme premier ministre conservateur, qui a fondé, disons, notre confédération. Et la preuve que le Parti conservateur n'est pas fermé, est ouvert, vous l'avez par ma candidature au sein de ce parti-là. J'ai été approché, le premier ministre du Canada a souhaité avoir des candidats de communauté culturelle, et mon arrivée dans ce parti-là n'est pas un hasard. Vous le savez, beaucoup de monde le sache, j'ai milité pendant 23 ans au Parti libéral du Canada, et les communautés culturelles sont prises pour acquis dans ce parti-là, et nous avons mis notre confiance pendant des années dans ce parti-là, et le parti qui est ouvert, qui veut vraiment accueillir et travailler avec les communautés culturelles, c'est bien le Parti conservateur du Canada.
Madame Bouliane.
Oui, alors pour ma part, pourquoi voter pour moi dans le comté? Nous sommes aux mains de l'opposition bloquiste depuis 11 ans et je crois que pour le développement du Québec et du Canada dans son ensemble, il faudrait avoir du respect pour le pouvoir. Moi, je veux faire partie d'un gouvernement conservateur pour changer des choses, pour construire le Québec au sein du Canada. Et je crois que la dynamique, je le dis tous les jours, de construire plutôt que de critiquer, ça fait avancer les choses et moi j'y crois beaucoup à construire. C'est une énergie positive que je souhaiterais redonner au Québec, cet élan de dire que ensemble on peut faire des choses, on peut renouveler le Canada et moi je m'implique pour que le gouvernement me ressemble et pour qu'il nous ressemble. Alors, les gens de Rosemont-Petite-Patrie devraient voter pour moi parce que, bon, dans mon comté, j'ai 17% de personnes aînées. Donc, je crois que ces gens ont besoin d'informations pour avoir accès aux suppléments de revenus. Il y a des familles, il y a des PME, PMI. Voter pour moi, c'est voter quelqu'un qui veut travailler.
La dernière question de la soirée, comme c'est moi qui vais la poser, c'est la question de l'ambassade d'Algérie. L'Algérie et l'ambassade du Canada en Algérie. L'Algérie, c'est le premier partenaire du Canada en Afrique et Moyen-Orient. 5 milliards de transferts de balance économique qui sont du côté canadien. Donc, il y a un gain. Beaucoup d'entreprises canadiennes arrivent à avoir de très grands contrats. Donc, des employés canadiens travaillent là-bas. Comment ça se fait que le service consulaire n'est pas encore complet à Alger? Les dossiers sont traités à Paris. L'ambassade du Canada en Algérie, c'est juste une boîte postale. Et aussi, en termes d'entrevues, les gens sont obligés de se déplacer à Rabat ou à Tunis pour faire des entrevues. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un engagement de votre part, si vous êtes élu, bien sûr, de prendre ce dossier en main? On sait très bien que ça dépasse le rôle d'un député, ça inclut même le ministère des Affaires étrangères, mais au moins que vous, en tant que député, vous allez travailler sur ce dossier.
Si vous me permettez de faire deux corrections, tout à l'heure, on a dit que c'est le gouvernement conservateur qui a diminué les services à l'étranger. C'est faux, c'est sous les libéraux, pendant le règne de M. Jean Chrétien, qu'on a diminué nos services à l'étranger. Deuxième chose, Mme Mourani a dit tout à l'heure qu'au Liban, l'ambassade de Beyrouth n'est pas opérationnel. Ceci a été réglé le mois dernier. Le gouvernement conservateur a pris engagement et tous les services consulaires maintenant sont rétablis à Beyrouth. Troisième, pour répondre à votre question, absolument, je m'engage parce que l'Algérie est un partenaire important, non seulement dans le bilatéral entre le Canada et l'Algérie, mais aussi un partenaire important dans la francophonie.
Et j'ajoute que vous avez une ambassade qui est tout à fait capable de recevoir un agent consulaire, puisque il a été rénové,
reconstruit,
il est moderne, il est sécuritaire. Alors, en tout cas, moi, je vais militer, je vais faire entendre votre voix.
Merci beaucoup, Mouloud. Un dernier mot ou
Ben, je remercie les candidats et puis écoutez.
Bonne chance.
Bonne chance et puis.
Allez voter.
Allez voter, bien sûr. C'est l'appel qu'on ferait à tous les concitoyens et tous les habitants de Montréal parce que il faut porter
Canada
sa voix
aussi,
et bien sûr du Canada.
Il ne faut pas oublier Rive Nord, Rive Sud.
Écoutez, on est
aussi
à Taxi Maghreb, centre-ville. On fait appel à tous les gens qui nous écoutent de sortir et de. D'aller, c'est le vote, c'est un droit et un devoir en même temps.
Donc, Madame Sylvie Boulien, candidate pour le Parti conservateur pour les élections du 14 octobre prochain pour le comté de Rosemont, la petite patrie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et bonne chance.
Merci beaucoup.
Monsieur Agop Everkilian, qui est candidat pour le Parti conservateur pour le comté Laval des Îles, donc un des quatre comtés de Laval pour le Parti conservateur aussi. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci et bonne soirée à tout le monde.
Et bonne chance. Donc, restez avec nous à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. La soirée électorale n'est pas encore terminée après le Parti libéral, le Bloc québécois. Nous venons de terminer notre entrevue avec le parti, les candidats du Parti conservateur. Il nous reste à recevoir les candidats du MPD. Mais entre-temps, on va prendre une petite pause publicitaire et on va revenir avec nos invités.
Le 14 octobre, vous êtes invités à voter à l'élection fédérale. Je suis Sylvie Bouliane, candidate du Parti conservateur dans Rosemont, petite patrie. J'aimerais vous expliquer pourquoi il est important de voter pour le Parti conservateur. Nous avons réduit le fardeau fiscal des petites entreprises. Nous relancerons le secteur manufacturier et la création d'emplois. Nous allouerons 3 milliards de dollars sur 6 ans à un nouveau programme de formation à l'emploi. Nous travaillerons avec le gouvernement du Québec pour construire d'autres routes, d'autres hôpitaux et d'autres institutions culturelles. Nous guiderons le Canada à travers la tourmente financière mondiale. Nous sommes le parti des familles, des enfants, des travailleurs, des aînés et des nouveaux Canadiens. Nous sommes votre parti. Le 14 octobre, rappelez-vous que Sylvie Bouliane, dans Rosemont Petite Patrie, travaille pour vous.
Ce message a été autorisé par l'agent officiel.
Massimo Pacetti, candidat libéral de Saint-Léonard et Saint-Michel, et le Parti libéral du Canada vous ont présenté une vision pour un Canada plus prospère, plus juste et plus vert. Un Canada qui protège ses citoyens en ce temps d'incertitude financière, avec une économie stable, des programmes sociaux plus solides et un environnement plus propre. Pour réaliser cette vision, votre appui est essentiel. Ensemble, tout est possible. Le 14 octobre, votez libéral, votez Massimo Pacetti.
Autorisé et payé par l'agent officiel de Massimo Pacetti.
Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. Réservez maintenant et ne payez que 2 semaines avant votre départ. Aucun frais caché, 0% d'intérêt. Dépôt minimum requis, certaines restrictions s'appliquent. Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. 514-847-1287, 847-1287.
ويش تمشي خش بلا يا مولاي ومولاي عبد السلام يا مولاي ويا طالعين يزوروا يا مولاي وفي العفاية رقبت على عين زورا وتشوش خطري وشحال بكيت وما بياش بلادي بيا الحبيبة اللي خليت أنا مزوج أجمع رحب الزين راني متولع بيت
رقبت على عين زورا وتشوش خطري وشحال بكيت وما بياش بلادي بيا الحبيبة اللي خليت أنا مزوج يا حبيبي رحب الزين راني متولع بيت
êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, c'est une élection, c'est une soirée d'élection. Nous avons reçu des représentants des différents partis électoraux, différents partis donc politiques qui se présentent à ces élections. Et il nous reste la dernière partie de l'émission jusqu'à minuit avec des représentants du parti MPD. Pour ce soir, nous allons recevoir, pour commencer, Madame Zahia Al-Masri, candidate pour le MPD dans le comté de Laval des Îles. D'autre part, nous recevons aussi Madame Samira Al-Aouni, candidate pour le MPD dans le comté de Bourassa. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ce soir, Lamine est accompagné par Wahid et Mouloud qui vont se charger de poser des questions aux candidats et candidates. Et pour commencer, donc, je poserai la question, ou la première question, aux deux candidates à qui je souhaite bienvenue à l'émission Taxi Maghreb.
Merci.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Et la première question, je vous demanderai de vous présenter et en même temps de présenter votre comté en termes d'un point de vue géographique pour que les gens sachent s'ils sont dans votre comté ou non.
Alors bonsoir, mon nom c'est Zahia Al-Masri, je suis la candidate du nouveau Parti démocratique à la Val des Îles. Et je vais vous le dire, la meilleure façon pour savoir si vous êtes, parce que j'ai rencontré beaucoup des gens en faisant du porte-à-porte, en rencontrant la communauté, puis vous savez, Laval, vraiment, sur les différences de quelques rues, c'est d'aller au site d'Élections Canada ou d'appeler, puis avec leur code postal, ils peuvent leur donner. Mais je vais vous le dire, c'est à partir de 83e Avenue et à partir de l'Ouest jusqu'au 440 dépassant Saint-Martin. Alors ça, c'est en principe. Puis c'est ça, alors vérifiez par contre avec Élections Canada, parce que quand vous savez, comme parfois on commence à une rue, puis celle d'après, c'est tout de suite une autre comté. Alors vérifiez vraiment avec Élections Canada, puis c'est à la Val-des-Îles. Et ça fait plusieurs années que je suis activiste avec la communauté ici à Montréal. Ça fait 23 ans que je suis là avec ma famille. Et je milite pour les droits de la personne, pour les droits des familles, pour les droits des enfants. J'ai travaillé au niveau fédéral aussi, en Environnement Canada. Puis c'est vraiment toutes des causes qui me tiennent vraiment à cœur.
Bonsoir messieurs, dames, bonsoir les auditeurs et auditrices de Radio Taxi Maghreb. Je suis très contente d'être parmi vous encore ce soir. Et je vais prendre l'habitude apparemment à faire les émissions avec vous. Samir Alaouni, je suis née à Casablanca en 1961. Je suis ici au Canada, au Québec depuis 10 ans déjà, après avoir vécu à peu près 16 ans en France, à Paris, pour préparer un doctorat en économie, un doctorat universitaire en économie à la Sorbonne, et puis avec un DESS aussi, commerce et marketing international. Je suis ici depuis que je suis là au Canada, au Québec. Je n'ai pas arrêté dès mon arrivée, bien entendu. Moi aussi, je suis passée par les mêmes conditions que tous les Maghrébins. Apparemment, je fais partie des 30% des chômeurs maghrébins au Canada, au Québec. Mon diplôme n'a pas été reconnu. Et puis, j'ai jamais pu avoir un travail en fonction de mes compétences ni de mes expériences professionnelles acquises à l'étranger. Et donc, j'ai refusé de rester pleurer mon sort. Et je suis sortie faire du bénévolat. J'en ai fait beaucoup, 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 sur différents thèmes, aussi bien communautaires que non communautaires. J'ai pas seulement travaillé que pour la communauté, mais j'ai aussi fait beaucoup de rapprochements, beaucoup d'ouverture et de dialogue. J'ai travaillé avec la commission Bouchard-Taylor durant les deux dernières années. J'ai fait des propositions parmi lesquelles ont été prises et reprises dans le rapport de monsieur Bouchard-Taylor. Et donc je me présente aux élections fédérales à Bourassa. Bourassa, c'est le comté qui qui est limité au nord par la rivière des Prairies, au sud le boulevard industriel, à l'est honoré excusez-moi là, Fernand Gauthier, je suis désolée, Fernand Gauthier, et à l'ouest Bruchézy.
Wahid, toi la parole pour poser la première question.
La majorité, bonsoir mesdames.
Bonsoir monsieur Wahid.
Les sondages nous annoncent, les différents sondages au Canada annoncent apparemment 25% pour aux environs de 25% pour le Parti libéral, aux alentours de 20% pour le NPD. Il n'y a-t-il pas un dénominateur commun entre le NPD et le Parti libéral pour battre les conservateurs et ainsi aller au fond de sa logique, gouverner?
Je pense qu'il n'y a pas de dénominateur commun avec les libéraux et j'espère qu'on n'en a pas avec les libéraux parce que eux aussi, ils ont laissé passer plein de lois que les conservateurs ont mis en place. À 43 reprises, M. Jack Layton, avec les députés néo-démocrates, se sont levés pour faire tomber le gouvernement conservateur et les libéraux se sont assis sur le main où ils ont toujours eu la grippe pour ne pas voter pour faire tomber les conservateurs. Donc c'est plutôt les libéraux et les conservateurs qui ont des choses en commun.
Il faut vraiment faire la distinction entre les politiques néo-démocrates et les politiques des libéraux. Alors ça c'est vraiment clair, on ne peut pas comparer les deux parce que les néo-démocrates, nous travaillons pour les valeurs de la famille, nous travaillons pour les communautés, nous travaillons pour améliorer le sort de monsieur et madame tout le monde, contrairement aux libéraux. Alors ça, il faut vraiment faire une claire distinction.
Bonsoir mesdames, madame Laouni, madame Al-Mastri.
Bonsoir.
Moi j'aimerais bien connaître votre, disons c'est une question un petit peu qui taraude l'esprit de tout écouteur qui est aujourd'hui très stressé, très préoccupé de la situation qui prévaut à travers le monde et qui éventuellement touche tout un chacun. C'est une question qui dirait quelle est la politique budgétaire du NPD, si jamais il est au pouvoir bien sûr d'une part, et quel serait le plan NPD pour faire face à la crise financière qui sévit actuellement.
Alors, c'est vrai que la crise actuelle, en plus, n'est pas d'hier. On l'a senti venir. C'est ce capitalisme sauvage, le laisser faire, le laisser aller, comme justement à la Harper. Et ce capitalisme-là, c'était entendu, c'était prévu qu'on en arrive là, parce que c'est juste des spéculateurs qui sont en train de vendre et d'acheter des actions qui n'ont aucune base, je dirais, financière, aucune base réelle. Donc, pour ce qui est de l'équilibre budgétaire, nous savons que les différents gouvernements néo-démocrates ici au Canada ont déjà fait leurs preuves, que ce soit à la Saskatchewan, que ce soit au Manitoba, que ce soit en Colombie-Britannique, on a fait nos preuves que nous pouvons maîtriser des budgets équilibrés. Pour ce qui est de l'Ontario, on sait c'est qui était à l'Ontario, c'est M. Bob Rae, et on sait actuellement il est où, il est avec les libéraux. Donc on ne peut pas, les mauvais, ils sont vont chez les libéraux, et puis les bons, ils restent avec le NPD.
Alors, il faut vraiment mettre l'accent dessus que les néo-démocrates pour l'économie, c'est clair, c'est réinvestir dans des domaines qui vont toucher tout le monde. C'est réinvestir dans la formation, c'est réinvestir dans des programmes sociaux qui vont aider ceux et celles, par exemple, la crise manufacturière. Il y a plein des employés qui ont perdu leur emploi, qui ont besoin d'avoir accès à l'assurance emploi et ne peuvent pas dans ces moments. Alors, réinvestir dans des programmes sociaux qui vont aider ces gens. Alors, nous pensons toujours, non pas aux grandes pétrolières et non pas aux banques comme M. Harper viennent de le faire, de venir au secours des grandes banques, mais non, nous pensons aux gens ordinaires, nous pensons à la famille, parce que chaque personne qui vient perdre l'emploi, ça c'est une famille en détresse. Alors nous pensons vraiment à ce que vivent chaque famille dans leur maison et comment est-ce que nous pouvons venir à l'aide à ces familles.
Une des questions que peuvent se poser des électeurs canadiens en général, c'est que le programme du MPD, c'est un programme très intéressant, très humain, humaniste plutôt. Par contre, ils se disent qu'on est en Amérique du Nord, on est dans un modèle économique libéral, c'est un petit peu, il se peut que ce soit utopique de voter pour ce programme-là dans un contexte de l'Amérique du Nord, et que le MPD est un bon parti d'opposition parce qu'il permet de faire l'équilibre entre un gouvernement libéral et un gouvernement conservateur. Quelle serait votre réponse à ce commentaire ?
Non, je ne pense pas que ce soit un programme utopiste. Au contraire, je pense qu'il est très très réaliste. Et comme j'ai dit tantôt, nous avons déjà fait la preuve des budgets équilibrés. Nous avons déjà prouvé cela. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est juste voter pour le NPD pour qu'on puisse être en place, pour qu'on puisse réaliser, concrétiser. Parce que si on voit juste en 2005, par exemple, où nous avons arrêté 4,6 milliards de dollars qui allaient être remis encore aux grandes banques, aux grandes pétrolières, qu'on a encore arrêté et qu'on a transféré de ces 4,6 milliards, 1,6 milliard juste aux municipalités pour le logement abordable, pour le transport en commun, nous avons déjà fait nos preuves juste en étant en opposition, même pas l'opposition officielle. Donc si les gens votent plus pour le NPD et qu'on puisse aller chercher plus de places de députés et qu'on puisse avoir plus de pouvoir, je pense qu'on pourra encore plus aider les familles à avoir une vie meilleure, je dirais.
Alors juste pour ajouter à ce que Dr Laoni vient de dire, ce n'est pas du tout un plan utopique, puisque si nous voulons protéger les emplois d'ici, je vais vous dire, de plus en plus apparaît que c'est M. Obama qui va gagner aux États-Unis. Alors même M. Obama s'est prononcé que c'est lui, il va renégocier les traités entre le Canada et les États-Unis. Alors si nous voulons protéger nos emplois d'ici, nous voulons protéger nos secteurs d'économie, ce n'est pas un plan utopique, c'est la réalité. Alors pour voter pour NPD, c'est pour voter pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Ce n'est pas de l'utopie. Chaque gouvernement doit vouloir protéger les droits de ses travailleurs et des travailleuses et regarder après leurs intérêts.
Une autre question que je vous posais, ça concerne donc vos candidatures respectives. Pourquoi citoyen de Bourassa voterait pour Madame Samira Laouni, et pourquoi un citoyen de Laval des Îles voterait pour Madame Zahia Al-Mansri?
Alors, pour Samira Laouni, pourquoi on voterait pour Samira Laouni? Je pense parce que ça fait 10 ans que Samira Laouni est intégrée, carrément depuis son premier jour, qu'elle est sur le terrain, à travailler au rapprochement, à travailler à régler les problèmes des autres, à écouter les autres, à servir les autres. Je pense que ça, et puis à donner l'exemple d'une bonne intégration positive, et à donner l'exemple de ne pas se laisser récroviller sur soi-même, que de ne pas former des ghettos, parce que le pire qui puisse arriver à nos concitoyens, concitoyennes, c'est de se ghettoiser. Et ça, je refuserai et je lutterai de toutes mes forces contre la ghettoisation. Je pense que voter pour Samira, c'est voter pour le changement aussi. C'est voter pour un visage différent, mais pas du tout divergent. Un visage qui est là pour servir tout le monde, monsieur et madame, tout le monde de Bourassa, si vraiment, parce que ça fait 13 ans qu'on sait que c'est les mêmes qui sont à Bourassa, et on sait que Bourassa ne s'est pas amélioré, au contraire, c'est empiré. Donc si on veut éviter une autre phase où ça va empirer encore davantage, il vaudrait plutôt voter pour le changement, et c'est Samira Laouni, le NPD, avec monsieur Jack Layton, qui vont la porter.
Alors, pour voter pour Zahia Al-Masri à Laval-les-Îles, je vais vous dire, ça fait 12 ans que Laval-les-Îles, il y a la même personne au pouvoir. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun projet fédéral qui a été impliqué. Alors, ça fait plus que 20 ans que je suis impliquée, non seulement dans la communauté, mais dans la politique en général. Puis, c'est vraiment du vrai changement, du changement concret que je peux amener. Et non seulement ça, c'est pour faire entendre notre voix. J'ai déjà été au Parlement et notre voix n'est pas entendue. Nous ne sommes pas là. Alors, c'est pour ça, c'est du vrai changement. C'est du changement concret que nous allons amener au Parlement. C'est le temps que nous arrivons là. Alors, votez pour Zahia Al-Masri, votez pour l'APD, un parti fort, un parti pour la famille, pour des vrais changements, des changements réels.
J'ai une question à vous poser personnellement, Madame Laouni. Oui. Vous êtes députée au Parlement fédéral. Mm-hmm. Quelle est la première chose que vous allez faire en tant que députée dans votre comté?
Est-ce que j'ai le droit de dire une seule chose ou trois choses? une seule chose. Je vais appuyer le projet de loi pour augmenter le salaire minimum fédéral à $10 de l'heure.
Et pour vous, Madame El Masri?
Ça serait pour travailler pour le système de santé, parce que nous avons une large communauté. La majorité de notre population, ce sont des aînés. Alors, pour améliorer le système de santé, pour améliorer la façon de répondre à ses besoins de santé, ça, c'est une des premières choses que je ferai en tant que députée.
Je vous remercie énormément.
Merci à vous.
Madame Zahia Al-Masri, Madame Zahia Al-Masri, donc candidate pour le MPD dans le comté Laval des Îles. Merci beaucoup d'être présente avec nous et bonne chance.
Merci à vous. Bonsoir.
Et Madame Samira Al-Aouni, candidate pour le MPD dans le comté de Bourassa. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et aussi, et bien sûr, bonne chance.
Merci infiniment, mais je profite de l'occasion pour demander à tous les citoyens et citoyennes canadiens, canadiennes, de sortir voter, voter massivement, voter pour ce que vous voulez, c'est la démocratie, c'est la beauté de la démocratie, mais j'aimerais bien que vous votiez pour le NPD, le parti fort pour le changement, avec le meilleur leader qui puisse exister, Monsieur Jack Layton.
C'est notre responsabilité.
Bien sûr, on arrive à la fin de notre émission. On va prendre une petite pause publicitaire pour venir clore l'émission.
Plus prospère, plus juste et plus vert. Massimo Pacetti, candidat libéral de Saint-Léonard et Saint-Michel, et le Parti libéral du Canada vous ont présenté une vision pour un Canada plus prospère, plus juste et plus vert. Un Canada qui protège ses citoyens en ce temps d'incertitude financière, avec une économie stable, des programmes sociaux plus solides et un environnement plus propre. Pour réaliser cette vision, votre appui est essentiel. Ensemble, tout est possible. Le 14 octobre, votez libéral, votez Massimo Pacetti.
Autorisé et payé par l'agent officiel de Massimo Pacetti.
Chers auditeurs, chères auditrices, on arrive à la fin de notre émission. Vous étiez à l'écoute de l'émission de l'Axe Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. L'émission a été animée par Lamine, accompagnée par Wahid et Mouloud. Et bien sûr, c'était une soirée électorale. Nous avons reçu les représentants, les candidats des différents partis politiques. C'était avec Monsieur Trudeau au niveau du Parti libéral, Madame Maria Morani, Madame Vivien Barbeau et Monsieur Farid Selm pour le Bloc québécois, Monsieur Agob et Madame Bouliane donc pour le Parti conservateur. Et nous venons de terminer notre entrevue aussi avec Mme Zahia Al-Masri et Mme Samira Al-Aouni, deux candidates pour le parti MPD. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ça va être une émission spéciale à l'occasion du 1er novembre, date donc du déclenchement de la révolution algérienne. Une émission dans laquelle on va essayer d'avoir des invités pour retourner sur cet événement historique. Donc on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On le comprend à l'akhir. Et bien sûr, on vous rappelle que Montréal Abbès sera là la semaine prochaine à partir de 22h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville. C'était Taxi Maghreb. Pour la communauté haïtienne, soyez patients. Tambour battant va arriver dans quelques instants. Et restez à l'écoute des émissions de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Bien sûr, je tiens à remercier Samir parce que la musique n'était pas trop présente, mais la musique que vous avez écoutée ce soir, c'était de la musique qui venait d'arriver d'Algérie. Donc je tiens à remercier Samir qui nous a permis de vivre ces moments importants. Et bien sûr, à la fin, je tiens à le mentionner une autre fois, je tiens à féliciter grandement l'équipe Petit Maghreb qui ont organisé donc le souk ce soir, cet après-midi à bien sûr au Petit Maghreb. Je tiens aussi à remercier madame Annie Samson qui est la mairesse de l'arrondissement qui a participé vivement, qui a participé même au montage des tentes. Ça on peut dire que c'est une candidate et c'est une élue qui représente vraiment sa communauté. Elle était présente vraiment. Je tiens aussi à la remercier au nom de la communauté maghrébine et aussi je tiens à remercier l'UDAC et l'ensemble des bénévoles qui ont permis de vivre un après-midi on peut dire maghrébin dans le Petit Maghreb. Gros, donc un grand bravo pour l'équipe Petit Maghreb. Et pour chers auditeurs, chers auditrices, on vous laisse avec de la musique avant de démarrer l'émission Tambour battant. Et monsieur Michel Bolivar qui va prendre les commandes de la ville de Montréal. Les clés de la ville vont être remises à monsieur Bolivar par le maire Tremblay. Donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours avec l'émission Taxi Maghreb.
J'ai vécu plein d'histoires. Ce qu'on est le fond. الفرحة في كل دار نسكية بياسمين والنوار